La nuit européenne des musées a lieu samedi 18 mai. C'est l'occasion de découvrir des musées méconnus de notre région.
Musée Ingres-Bourdelle à Montauban, musée Campanaire à l'Île-Jourdain, musée Champollion à Figeac, musée Masset à Tarbes, musée des Arts Précieux Paul Dupuy à Toulouse. Tous ces musées et bien d'autres ont en commun de proposer une programmation spécifique à l'occasion de la nuit européenne des musées qui se déroulera samedi 18 mai. Spectacles et conférences y sont notamment proposés en fin d'après-midi ou en soirée. Les musées du Gers ne font pas exception. Nous partons ce matin à Mirande, à la découverte de son musée des Beaux-Arts avec Michel Hu. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la conservation départementale du patrimoine et des musées. Quelles œuvres sont précisément exposées au musée des Beaux-Arts de Mirande ?
Alors, il faut préciser que le musée des Beaux-Arts de Mirande est un musée qui fait partie du réseau, oui, effectivement, gersois, ce qui est une particularité, y compris nationale d'ailleurs, portée par ce réseau, par des petites communes, avec chaque fois un musée concernant une thématique particulière ou une problématique particulière. Donc, ça fait du réseau gersois, encore une fois, une originalité tout à fait intéressante, on va dire, de la préhistoire jusqu'à l'art contemporain. Et dans cette logique, là, le musée de Mirande correspond à la partie Beaux-Arts, effectivement, et nous permet de développer un certain nombre d'animations ou d'expositions autour de cette thématique-là.
Signalons que dans ce secteur, vous avez, dans ce réseau, vous avez l'abbaye de Flaran, et puis vous avez aussi ce musée d'art campanaire qui est à l'Île-Jourdain.
Exactement. L'abbaye de Flaran est devenue depuis 2000, donc qui est le centre patrimonial départemental, est devenue depuis 2000 la tête de ce réseau, puisque ma direction s'y est installée. Et ça permet effectivement de développer des actions, on va dire, en commun. Et finalement, c'est un terme à la mode, de mutualiser aussi un travail scientifique sur un réseau de musées très divers et à la fois très complémentaires.
Alors, vous disiez que ce musée de Mirande est le musée des Beaux-Arts de ce réseau. Il présente des œuvres de quelle période ?
Alors, le musée a été fondé, en fait, au milieu du 19e siècle par un représentant de l'administration française qui était originaire de Mirande. Et il a, en fait, légué sa collection, et c'est quelqu'un qui travaillait dans l'administration des Beaux-Arts. Donc, effectivement, il était particulièrement bien informé, j'allais dire, de tous les courants artistiques de l'époque. Et
un
du
grand
coup,
amateur.
Il a développé une collection, voilà, un grand amateur, exactement. Et il a développé une collection depuis le 15e jusqu'au 19e siècle, puisqu'il était aussi intéressé par les courants un peu plus contemporains, on va dire, pour son époque. Et puis, au fur et à mesure du temps, ce petit musée, qui reste un musée modeste mais très intéressant, a développé un certain nombre d'acquisitions et puis de legs ou de dépôts qui ont été faits, y compris par l'État d'ailleurs, sur la collection. Donc, ça a permis de compléter comme ça la présentation de l'ensemble d'un certain nombre de courants artistiques italiens, flamands et français pour la partie plus contemporaine, 19e.
Il y a aussi, si je ne m'abuse, une collection de faïence qui est exposée.
Voilà, exactement. Donc ça aussi, ça fait partie d'un legs et d'un don à l'époque. Une collection importante qui, à l'époque, était une des plus importantes d'ailleurs de Midi-Pyrénées, qui s'est constitué, qui est toujours présenté et qui constitue un petit département, si on peut dire, à l'intérieur de cet établissement.
Et vous avez voulu faire quelques acquisitions d'art contemporain pour essayer d'étendre ce panel d'œuvres des Beaux-Arts.
Oui, à l'époque, au moment de mon arrivée en fonction, effectivement, alors c'est une problématique un peu complexe sur un petit musée et sur une collectivité qui n'a pas forcément des moyens
Eh oui.
énormes, mais ça permettait effectivement, comme vous l'évoquiez, de tirer un peu la collection aussi, de continuer, si je puis dire, à la tirer vers l'art contemporain. Donc on avait fait notamment une acquisition d'une œuvre d'un artiste plutôt des Pyrénées, en l'occurrence, mais qui avait travaillé sur le Gers. Et c'est un moyen comme ça de compléter petit à petit et de conforter en quelque sorte cette collection.
Oui, c'est un musée qui continue de vivre et de s'enrichir. Vous souhaitiez, Michel Hu, attirer notre attention sur une exposition qui commencera le 13 juillet, des œuvres de Pierre Théron. Qui était ce peintre?
Alors, ça, c'est un. Bon, la particularité aussi de travailler comme ça en réseau, c'est que ça nous permet effectivement de rencontrer souvent ou des artistes ou des endroits fort intéressants. Et on a eu l'occasion de croiser la route, si je puis dire, du fils de Pierre Théron, qui mène actuellement un inventaire sur le travail de son père. Et en fait, son père a été un grand muraliste qu'on a un peu oublié, qui a travaillé sur quasiment toute la façade atlantique depuis la Gascogne jusqu'à la région parisienne et qui a notamment fait l'objet d'un certain nombre de commandes publiques entre les années 70 et les années 90. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé non seulement dans les logiques de collectivité mais aussi sur par exemple les établissements scolaires. Donc ce pointage est en train d'être fait et comme c'était en même temps effectivement un artiste peintre assez couru à son époque, ben on va pouvoir le présenter cet été un certain nombre d'œuvres en logique de petite rétrospective, on va dire ça comme ça, sur le musée de Mirande.
C'est un peintre assez contemporain parce qu'il est né en 1918 et mort en 2001, donc finalement c'est assez récent quand même.
Oui, exactement. Donc, on est tout à fait dans ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de donner un autre éclairage. Finalement, la collection d'origine, elle sert de support, y compris sur les grandes logiques de l'histoire de l'art. C'est exactement ce qu'on fait à Flarens avec la collection Simonov. Et chaque fois, on peut avoir un éclairage plus pointu sur telle ou telle période ou sur tel ou tel artiste.
Voilà, ça c'est la présentation des œuvres du Musée des Beaux-Arts et de cette exposition à partir du 13 juillet des œuvres de Pierre Théron, donc 30 œuvres qui vont être présentées. Et puis évidemment tout ce réseau des musées du Gers avec l'abbaye de Flarens et le musée d'art campanaire à l'île Jourdain, évidemment je ne les cite pas toutes, mais tout ça est à découvrir. Et nous allons maintenant, donc je vous remercie Michel Hue, directeur de la
Merci.
conservation départementale du patrimoine des musées. Nous allons maintenant prendre au téléphone Henri Cayolle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Société archéologique et historique du Gers et vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur du Gers, où vous êtes en charge du volet civisme, mémoire et transmission. Et nous sommes en ligne aujourd'hui parce que vous proposez justement pour cette Nuit européenne des musées une activité particulière dont nous allons parler. Je voudrais que nous parlions de cette exposition résistante du Mirandais à laquelle vous avez largement participé puisque vous avez fait 4 ans de recherche sur la résistance. Vous avez été dans les archives départementales du Gers, de la Haute-Garonne, puis vous avez aussi interrogé des familles de résistants du département et vous avez conçu cette exposition résistante du Mirandais. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, Henri Cayolle, nous rappeler le contexte social et économique de l'occupation du Mirandais à cette époque?
Bien, écoutez, la situation mirandaise, c'est la même que partout ailleurs, n'est-ce pas? Dans un premier temps, c'est le régime de Vichy. Puis, alors, le régime de Vichy avec ses défauts. Et puis, dans un deuxième temps, à partir de novembre 1942, c'est l'occupation allemande proprement dite, avec d'autres contraintes. Voilà, c'est la situation générale.
Et donc, il y a eu des mouvements de résistance qui sont nés dans le Gers et dans cette région du
Alors,
Mirandais.
l'exposition traite de la résistance dans la région de Mirande, de la Starac, où elle était représentée essentiellement par l'armée secrète et par sa représentation locale, le bataillon Soulès.
D'accord. Et il y a eu notamment, en tout cas, cette exposition met en valeur les résistantes du Mirandais, donc des femmes qui se sont engagées, alors que nous le savons, il y avait quand même une petite part de femmes par rapport au nombre d'hommes qui étaient engagés. Pourquoi vous avez voulu mettre en avant ces femmes?
Eh bien, ce n'est que justice, n'est-ce pas? Parce que on parle toujours des résistants, mais il faut savoir que 15 à 20% des résistantes en France, des résistants en France ont été des résistantes, et que 15% des déportés politiques ont été des femmes. Je voudrais souligner également que leur mérite était d'autant plus grand que ces femmes n'avaient pas le statut de citoyenne puisqu'elles n'avaient pas encore le droit de vote. Et ce droit de vote ne leur sera accordé qu'à partir des élections municipales de 1945.
Oui. Vous mettez en avant dans cette exposition la figure d'Emma Saucède, une emblématique résistance de Mirande. Est-ce que vous pourriez nous la présenter?
Oui, alors, Emma Saucède est la plus éminente des résistantes que cette exposition présente, mais il ne faut pas oublier les autres, n'est-ce pas? Nous en avons identifié une quinzaine qui avaient le statut principal d'agent de liaison, qui était une mission délicate et dangereuse, puisqu'elle risquait l'arrestation, l'emprisonnement, les violences, la torture et la déportation. Il ne faut donc pas oublier toutes ces femmes, même si Emma Saucède est la plus éminente d'entre elles et qu'on la qualifie localement d'héroïne modeste.
Héroïne modeste, qu'est-ce qu'elle a fait en particulier?
Est née à Mirande, au moment de l'occupation, elle a 38 ans. Elle va s'illustrer par différents investissements qui sortent vraiment de l'ordinaire. En 1943, va s'installer à Mirande, aux environs de Mirande, Pont-Saint-Père, un des premiers maquis du Gers, et c'est elle qui va leur fournir des documents, des faux documents, des faux papiers, des faux tickets d'alimentation. Et grâce à l'établissement de son frère qui est industriel à Mirande, elle va leur fournir des véhicules trafiqués et des fausses autorisations de circuler qu'elle a confectionnées elle-même. Mmh. Elle fournira en outre le combustible pour ces véhicules qui fonctionnent au gazogène. Elle va devenir une spécialiste des faux papiers, cartes d'identité, tickets d'alimentation, autorisations de circuler, qui permettront de cacher des réfractaires au service
du travail obligatoire,
résistants potentiels, dans les fermes des alentours qu'elle-même sélectionnait. Le maquis de Pont-Saint-Père bénéficiera ainsi grandement de ses talents de faussaire et elle ira jusqu'à cambrioler la mairie de Mirande.
Ah oui, carrément.
Elle va cacher également des armes de ce maquis et finalement elle sauvera son chef, le lieutenant Miller, de l'arrestation lors de l'opération de minuit qui a anéanti le maquis de Pont-Saint-Père en décembre 1943, mais traquée elle-même par la Gestapo à cette période, elle va devoir plonger pendant 8 mois dans la clandestinité à l'autre bout du département, et elle ne reviendra à Mirande qu'à la libération. Mais ce n'est pas le seul fait d'armes de Massocède, puisque elle va fournir des véhicules trafiqués à un éminent personnage qui est Pierre Rateau, alias Pape, qui était le chef du service atterrissage et parachutage de la région toulousaine, c'est-à-dire l'essentiel pour résister, les armes parachutées. Alors, elle va également cacher au profit de ce service des aviateurs alliés en instance de passage en Espagne. Sa maison servira fréquemment de lieu de réunion pour les chefs des équipes des parachutages clandestins, mais plus risqué encore, elle autorisera la cache de 5 tonnes d'armes parachutées dans l'entreprise familiale. Ces armes y resteront plusieurs mois et devront être déménagées d'urgence sous la menace d'une délation. On saura plus tard qu'elle a apporté son aide à toutes sortes de traqués, des juifs, des résistants, des réfractaires au STO, et qu'elle les orientait, après leur avoir donné rendez-vous à l'église, leur donnant fils religieux, vers un réseau d'évasion par l'Espagne dont le cerveau était à Tarbes. Voilà. Alors, dans toutes ces circonstances, Emma Saucède se montrera totalement désintéressée, ce que souligneront ceux qui ont bénéficié de son aide. D'ailleurs, pour bien montrer son caractère trempé, alors qu'à la libération, on la presse de toutes parts de demander les décorations auxquelles elle a droit, elle va se heurter à un caractère tatillon des bureaucrates qui n'ont pas été résistants, et elle leur fait alors cette réponse sublime qui résume sa personnalité. Je considère avoir accompli mon devoir. C'est une satisfaction personnelle que l'attribution ou non de la croix du volontaire de la résistance ne pourra en rien changer. elle obtiendra néanmoins
Et
du
ben voilà
Colorado.
une belle
Mais
conclusion des Massosèdes, cette emblématique résistante de Mirande. Et puis il y aura évidemment, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, une présentation de ces résistantes du Mirandais. Merci beaucoup, Henri Cayol. Merci de nous avoir présenté cette figure et ces résistantes du Mirandais au Musée des Beaux-Arts de Mirande. Et puis merci aussi à Michel Hu pour la présentation des collections, des œuvres, pardon, du Musée des Beaux-Arts de Mirande. Rendez-vous samedi 18 mai pour la Nuit européenne des musées. Merci à vous deux.